Alors, nous allons parler, Be'ezrat Hashem, de la fonction du mal. Mais avant donc de commencer cette conférence, je voudrais juste comme précision, que nous n'allons pas parler de ce qu'on appelle le mal ontologique, le mal au début, l'origine du mal. Dans mon livre, Le règne de l'unité, ou Le roi du monde, il y a un chapitre qui est consacré sur ce thème donc, du mal, d'après la Kabbalah du Arizal, du Rambral aussi, à savoir où commence le mal, à partir de quoi commence le mal. Nous allons parler uniquement, on va considérer que le mal existe, on ne sait pas trop qu'est-ce que c'est une existence, mais nous allons parler uniquement comme le titre l'indique, la fonction du mal. Nous allons parler donc du tafkid, la fonction donc, du mal. Donc on ne parlera pas de ce mal ontologique, c'est-à-dire le mal dans le timsum, le mal en tant que lacune dans la shvirat hakelim, dans la brisure. Il faudrait quand même savoir que pour le Rambral, dans Dat Vunot, Hara eno metziut shel mamash. Le Rambral nous dit que le mal n'est pas une véritable existence. Il ne dit pas que ce n'est pas une existence du tout, parce qu'il y a quelque chose qui existe. Mais ce n'est pas une metziut shel mamash. Il appelle metziut shel heder, une existence à partir d'une absence. L'existence par l'absence. Mais il y a une question qui se pose, comment à partir de l'absence peut exister quelque chose? C'est la question que la Neshama pose au Sechel. L'âme pose la question à l'intellect dans le livre de Dat Vunot. Il y a une question, donc comment peut-on parler donc d'une réalité à partir d'une absence? Cependant, il y a une absence. Et cette absence engendre cette réalité qu'on appelle le mal. C'est quoi cette réalité? On ne peut pas donc discuter sur cette réalité, et ce n'est pas le sujet. Pour ceux qui voudraient donc connaître un peu sur cette réalité, devraient donc étudier plusieurs enseignements et du Zohar, du Hari. Et dans mon chapitre 4, je pense, ou 5 sur le roi du monde, je parle de ce mal ontologique, à savoir, qu'est-ce que c'est cette origine du mal. Mais nous allons nous contenter de parler du Nahash, puisque la Torah parle du Nahash, de ce serpent à la Genèse. Et donc, il y a un fait, il y a un Nahash. Est-ce que c'est un esprit, c'est une créature, c'est sûr. On peut dire, en Amikra, Yotzim de Pshuto, c'est le verset, la Torah parle d'un sens, et donne un sens, donc, concret, réel, c'est une réalité. C'est pas seulement comme certains peuvent comprendre chez Maïmonide le mal comme une le mal comme une comme un symbole, ou je veux dire le Nahash, une métaphore. Lorsque la Torah nous parle du Nahash, du serpent dans le Gan Eden, on peut penser d'après avec Maïmonide que il s'agit de seulement d'une métaphore, d'une histoire, mais qui est allégorique. En réalité, alors, nous allons parler de la fonction du mal. Et comme je précisais tout à l'heure, on ne parlera pas donc de l'origine du mal. Mais nous parlons de la fonction du mal. La conférence va porter donc sur ce sujet qu'on appelle la fonction du mal. À savoir, il faudrait accepter que le mal existe. Et c'est la raison pour laquelle nous allons prendre le texte de Bereshit de la Genèse qui relate le Nahash, le serpent. Dans le Gan Eden, avec Adam et Ève, se trouve un serpent. On se pose la question, qu'est-ce qui fait ce serpent ici? Qui l'a créé? Est-ce un esprit seulement, qui n'existe pas en tant que créature, mais en tant qu'esprit? On peut le voir avec Abraham El aussi comme un esprit que chacun possède, à savoir qui est inhérent à la nature de chacun. Donc en chacun de nous, il y a un serpent. Et il y a un serpent qui est général. Un serpent qui est en fait le prototype de tous les petits serpents. Mais il y a un grand serpent. Et Adam Rishon apparemment a affaire avec ce grand serpent. Le Rambam nous dit que comme la Neshama d'Adam Rishon, l'âme d'Adam Rishon, va se subdiviser entre les âmes de toutes les créatures, aussi le Nahash va se subdiviser en avec toutes les parties donc, du mal qui existe. Donc, chaque âme a sa part, ou plutôt chaque partie du Nahash, du serpent, a une relation avec une âme. C'est que le Rambam l'enseigne dans Dehumorom, à savoir, il y a une chalouka, une subdivision, donc, et du serpent, et de l'âme. Dans le Hachem, dans la voix de Dieu, le Rambam l'explique, au fait, c'est ce qu'on appelle le massa. Le massa, c'est le fardeau. Chacun a un fardeau. Donc, chacun a un fardeau. Et ce fardeau, c'est le Nahash. Bon, on va passer maintenant à... Je voudrais donner, Be'ez Hashem, cinq significations, ou cinq, non pas définitions, puisqu'on... On n'est pas là pour définir le mal, encore une fois, et on n'est pas là non plus pour parler de l'origine du mal. Mais on accepte le mal comme une réalité. Pour ceux qui veulent approfondir, alors je vous ai dit que dans le chapitre 4, dans le roi du monde, il y a tout un chapitre où j'explique, et je rapporte donc l'enseignement du Hari, du Rizal, du Rambam, du Zohar, sur le mal ontologique, donc l'origine du mal. Le mal, comment il a été créé. Là, nous allons comprendre pourquoi il a été créé. Quelle est sa fonction? Le verset dit « V'anachash haya arum » et le serpent était rusé. Alors, regardez, le texte ne parle pas que le serpent est mauvais, mais il dit tout simplement que le serpent est rusé. Il est rusé. Arum. Arum, ça veut dire aussi nu. Quelqu'un qui est nu. La ruse, au fait, c'est de dénuer. Au fait, c'est pas dénuer, non, c'est déshabillé. Déshabillé, c'est en fait de retirer toutes les formes. La ruse, c'est donc aussi une chokhma. C'est aussi la science. Puisque la science, elle ne va pas s'arrêter uniquement superficielle. Elle va essayer de comprendre le fond. C'est aussi la Gemara dans Masechet Rolin, lorsqu'elle parle des Talmidei Hachamim, des sages d'Israël, et les appelle aussi des rusés. Talmidei Hachamim apal piché rumim bedat aussi matzmam ke behemot. Lorsque nos maîtres veulent expliquer cette notion, donc, ce passage, ce verset dans les psaumes, Adam ou behemat oshia Adonai, Dieu, tu sauves l'homme et la bête, Dieu, toi, tu sauves l'homme et la bête. La Gemara, le Talmud, nous explique au fait que c'est quoi l'homme et la bête. Les Talmidei Hachamim, les maîtres, même s'ils sont rusés, à savoir, ils peuvent rouler tout le monde, cependant, ils font semblant qu'ils comprennent rien du tout. À savoir, ils font des bêtes. Ils sont avec toi comme des bêtes. C'est-à-dire qu'ils retirent cette ruse. La ruse existe, elle est là, et maintenant, il se débarrasse de cette ruse pour être avec toi avec un bitul adat, avec une annulation, avec un effacement de leur faculté cognitive, de leur intelligence. Ils s'annulent avec toi, en d'autres termes. D'après les maîtres, au fait, Dieu sauve celui qui est qu'une bête avec lui. Mais celui qui joue l'intelligent avec Dieu, Dieu ne le sauve pas. Adam vematoshia Adonai. Que signifie Dieu sauve l'homme et la bête? Il sauve l'homme qui fait la bête. Mais l'homme qui fait l'intelligent, il ne le sauve pas. C'est là, en fait, ce que le Maharsha explique dans cet enseignement, donc de Adam ou Behema Toshia Adonai. Mais revenons pour nous à cette idée de ruse. En fait, la ruse, elle existe déjà à partir du moment qu'on étudie. On ne sait pas de déformer, mais on essaie de retirer tout le superflu pour arriver à l'essentiel. Donc, il faut déshabiller. Il y a aussi un sens figuré au mot expliqué en hébreu. Le'afshit. Le'afshit, C'est expliqué. C'est aussi expliqué, mais c'est aussi déshabillé. Donc la ruse, le rusé, c'est celui qui connaît le nu. Mais celui qui ne connaît pas le nu, il connaît juste l'habit, il connaît donc le superficiel. Il ne peut pas rouler l'autre. Pour pouvoir ruser contre l'autre, il faut le connaître nu, il faut le mettre à nu. La chokhma aussi, la chokhma, elle peut mettre à nu chaque thème, chaque sujet. Comme introduction sur le mal, à savoir que le serpent est rusé. Maintenant, la ruse, comment on l'utilise, cette ruse? Tout dépend maintenant quelle est la fonction de cette ruse. Si maintenant, cette ruse-là, d'après le Midrash, elle sert pour faire trébucher. Donc si je connais le point faible de l'autre, je le connais à nu, donc je peux le faire trébucher. Donc le mal en tant que piège, ou, pour reprendre un thème du Midrash, comme un Nisayon, comme l'épreuve de l'homme. Au fait, on va mettre à l'épreuve l'homme. S'il réussit, s'il passe l'épreuve, donc il a gagné, mais on lui fait un piège. Et le piège, c'est selon ses lacunes à lui, c'est selon ses faiblesses. S'il surmonte l'épreuve, alors il a gagné. Il s'appelle le tzaddik. S'il tombe dans le piège, donc en fait, il ressemble à ce mécréant. Les Midrash nous donnent l'exemple aussi de la prostituée. La prostituée comme le mal, c'est-à-dire qu'en fait, aimer, c'est le piège. Maintenant, si l'homme craque, alors dans ce cas-là, apparemment, selon ce Midrash, encore une fois, il est tombé dans le piège, donc dans le mal. Sinon, s'il passe l'épreuve, Kiviachol, il va tester sa lacune à lui. Puisqu'on connaît son nœud, on connaît sa partie qui est lacune, qui est vide chez lui. Et le mal, en fait, il va permettre à l'homme donc de passer cette épreuve. Les Hachamim voient dans le Midrash, on va voir plusieurs explications sur le mal. C'est l'expression la plus simple et qui est rapportée un petit peu partout, et dans le Midrash et dans la Gemara. Le Ramchal rapporte aussi cette explication, mais il ne la retient pas de la zona de la prostituée, mais aussi de cette pierre, au fait, où tout le monde trébuche. Cette pierre, au fait, il y a une, on dirait en français, une peau de banane. Une peau de banane, c'est-à-dire, au fait, les gens trébuchent. C'est Eben HaNegev, la pierre d'achoppement, où tout le monde glisse. Le mal serait donc cette pierre où tout le monde, où celui qui doit glisser, glisse. Parce qu'il y a celui qui connaît cette pierre d'achoppement. Il enjambe, et donc il ne tombe pas dans ce piège. En tous les cas, dans cette explication, on peut voir la fonction du mal comme l'épreuve de l'homme, en tant qu'épreuve de l'homme. Il y a une deuxième signification maintenant sur, non pas du mal, mais de la fonction du mal. Le mal comme révélateur. Le mal va révéler quelque chose. En fait, on suit la première explication, mais on approfondit un peu plus donc le sujet du mal, ou de la fonction du mal. Que signifie le mal en tant que révélateur? Au début, l'homme ne connaît que le bien. Il ne connaît pas le mal. Pour pouvoir connaître réellement le bien, au fait, il faut qu'il connaisse le mal. Au fait, c'est l'explication que donne le Nahash, le serpent, à Ève, à Chava. Il lui dit, au fait, vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas connaître, tout simplement. Si on ne connaît pas le contraire, on ne peut pas saisir. Qu'est-ce que c'est le bien sans le mal? Au fait, vous ne pouvez pas comprendre même le bien si vous ne connaissez pas le mal. L'antithèse. Dans le langage du Ramchal dans Da'at Tevunot aussi, qu'il rapporte cette idée, donc cette fonction-là, « En davar nikar el amitor hofro ». Une chose ne peut être comprise que par son contraire. Est-ce qu'on peut comprendre la lumière sans les ténèbres? Est-ce qu'un homme est riche sans le pauvre? Est-ce qu'on peut être rassasié sans la famine, sans avoir faim? Etc. Donc on ne peut pas comprendre l'abondance s'il n'y a pas la sécheresse. S'il n'y a que de la lumière, qu'est-ce que c'est la lumière? il faut un éder de la lumière, une absence de la lumière pour trouver, pour comprendre la lumière. Donc le mal révèle, le mal nous donne cette possibilité de discernement, de distinction, ou tout simplement de connaissance, parce que la Torah parle de date, et ce date, cette connaissance, elle est apprise à partir du nachash, c'est le nachash qui donne la leçon du date. À savoir, si tu ne connais pas tes lacunes, tu ne peux pas connaître tes forces non plus. Donc il faut connaître tes lacunes pour connaître tes forces. Mais Dieu dit à Adam Arishan, il dit, le jour où tu consommeras cette voie, alors tu vas mourir. Oui, mais est-ce qu'il y a la vie sans la mort? Qu'est-ce que c'est la vie sans la mort? Est-ce que quelqu'un peut comprendre, peut donner une définition de la... Parce que qu'est-ce que c'est la vie? La vie, c'est ne pas mourir. Non, non, il y a une autre vie, bien sûr. Mais pour nous, la vie, on peut l'appeler survie aussi, mais la vie, c'est ne pas mourir. C'est faux, hein? Mais c'est la définition du nachash, de la vie. C'est, il faut connaître l'autre côté. Mais parce que on calcule tout par rapport à cette vie que nous avons, par rapport à cette limite, 70 ans, ou 80, ou 90 ans. Mais si on vous dit demain vous allez vivre 3000 ans, qu'est-ce que vous allez faire de cette vie? Ce sera une autre vie. Donc la définition telle que nous concevons la vie, c'est parce que la vie termine. C'est-à-dire la non-vie, parce qu'il y a une non-vie, le contraire de la vie. Alors, au fait, je vois ou je conçois, ou je donne un sens à la vie, par rapport à cette limite ou ce contraire qu'on appelle la mort. Mais c'est notre vie. Et c'est ce que dit le Rambam, en davar nikar ila mitochofro. On peut comprendre que par le contraire. Donc le nachash, lui, le rusé, nous dit, attention, tout le temps que vous ne connaissez pas le contraire, vous êtes des objets. Vous n'allez pas être des sujets, vous êtes des objets soumis à un pouvoir suprême, mais vous ne connaisserez pas, vous ne pouvez pas connaître, rien du tout. On va aller plus loin maintenant. Le mal, en tant qu'indicateur, ça veut dire quoi le mal comme indicateur? Après la faute, donc après être allé dans cette voie du mal, Dieu dit à Marichan, Ayeka, où tu es? Bon, il y a plusieurs explications qui ont été données sur ce titre, sur ce thème de Ayeka. Est-ce qu'il dit où tu es? Ou c'est pas où tu te trouves. C'est pas Efoata, il ne s'agit pas donc d'une... d'un élément où Dieu demande dans quelle vie tu te trouves. C'est pas où tu es, dans quelle place tu te trouves. Mais où tu en es. Ayeka, où tu en es. Il y a Midrash dans Echa Rabba, au nom de Rabbi Shimon, qui dit Ayeka Adaou Tirtiv Echa Yashva Badad. Avec un jeu de mots, Ayeka, où tu es, devient Echa, ce sont les lamentations de Jérémie. Après l'exil, comme Adam Arishon va quitter le Gan Eden, le paradis, le peuple juif quitte Israël, et Jérémie dit au peuple d'Israël, où tu es maintenant? Ou plutôt, où tu en es dans ta vie? Où tu te trouves exactement? Mais est-ce que, sans l'exil, Israël pouvait prendre conscience de où elle était d'abord? Puisqu'en fait, est-ce qu'on peut prendre conscience de la place, en l'occurrence du peuple d'Israël, en Israël, seulement s'il y a un exil, il y a le en dehors d'Israël. Ça veut dire qu'en fait, on a besoin encore une fois de l'exil pour comprendre la rédemption. On a besoin donc de l'autre côté du paradis pour comprendre le paradis. Mais si on était continuellement au paradis, est-ce qu'il existerait un paradis? En d'autres termes, l'idée donc de Ayeka, c'est pour donner, appeler, interpeller l'homme pour lui dire donc où tu en es, où tu es. En fait, c'est son indicateur, parce que l'homme peut avancer dans un espace-temps qui est indéterminé. Mais s'il y a une possibilité du changement, donc de s'arrêter, imaginons donc que nous sommes dans le paradis, donc il y a l'éternité, donc il y a plus d'espace-temps, c'est éternel. Mais donc on ne peut pas parler donc de s'arrêter, mais lorsque l'homme tombe à savoir, il s'arrête de rester dans cette place-là, il doit changer de place, ce changement de place va lui indiquer réellement où il se trouve. C'est ce que je disais tout à l'heure, le mal en tant qu'indicateur. Mais en fait, on peut comprendre plus encore En fait, le mal nous dit où nous nous trouvons. Qu'est-ce qu'on est exactement? Le Harizal, lorsqu'il parle de la brisure des vases, à savoir des premiers principes qui vont faire toute la création, ces principes aussi vont tomber. Ils tombent donc, on va dire, d'un monde au premier étage, d'autres, enfin, du toit, ils tombent un étage inférieur, un second étage et un troisième étage. Mais au fait, lorsque ces principes tombent, ils ne tombent pas réellement d'après le Rambam. Ils se retrouvent à leur place pour que là-bas, ils puissent construire. Parce que là où ils étaient, ils ne peuvent pas construire. C'est trop haut pour eux. Donc, là où tu tombes, c'est là où tu dois révéler. C'est ce que j'expliquais, le mal comme indicateur. Okay. Il t'indique qui tu es réellement. Quelle est ta force, quelle est ta place. Et c'est seulement le mal, s'il n'y avait pas donc cette chute, cette chute des bases ou chute des âmes, aussi, il ne peut pas donc procréer. Donc, le mal va donner une possibilité à l'homme de lui dire où il se trouve. C'est ça, Ayeka. Ayeka, où tu es, où tu te trouves, réellement. C'est quoi ta véritable place? Tu pensais que tu étais là, mais non, ta place est là. On peut dire que ce n'est pas l'épreuve aussi, l'homme se trouve dans une place, parce que la place où il s'est trouvé, où il va se retrouver, c'est là où il doit produire, c'est là où il doit faire son tikkun. Parce que son tikkun, en d'autres termes, son fardeau, c'est au fait, c'est aussi son chariot. C'est pas seulement quelque chose qu'il doit porter, mais quelque chose avec lequel il va rouler. C'est son chariot, c'est sa merkava. Il ne faut pas seulement le voir comme chez les Grecs, n'est-ce pas, comme cette grande boule, cette planète qui est au-dessus de lui, qui l'écrase. Lui, au fait, ce mal, ou cette épreuve, ou cette lacune qui vient, là où il se trouve, là où il est tombé, c'est là maintenant où il doit faire le santikoun, sa réparation, son arrangement, sa création. Et c'est là où, en vérité, où il va retrouver sa femme. C'est là où il se nie. C'est seulement après la faute, entre les guillemets. Et enfin, comme dernière explication, après nous allons nous arrêter à celle-ci. C'est le mal comme une prise de conscience. En fait, toutes les significations que j'ai données, on peut tous les englober dans cette dernière. Le mal comme une prise de conscience. C'est quoi la prise de conscience? Au fait, comme j'ai dit tout à l'heure, qui nous sommes vraiment? Qu'est-ce que c'est l'homme? C'est un corps ou c'est une âme? Il y a effectivement une dualité. Le corps qui est composé, qui est fabriqué à partir d'une certaine nature, et l'âme qui est fabriquée à partir de quelque chose qui est au-delà. Mais cette union, cette symbiose entre l'âme et le corps, c'est ça l'être humain. Il n'est ni âme, il n'est ni corps. C'est l'ensemble, c'est la synthèse de ces deux. Supposons qu'Adam Arishon se trouve maintenant dans le Etzraim, c'est la première voie, qui est donc la voie de l'éternité. La voie de la vie avec Dieu, une vie divine. Dans cette vie divine, au fait, il n'y a pas de travail. Il n'y a aucun travail, il n'y a aucune œuvre à fournir. Il y a l'économie de la gratuité. Tout est gratuit. Tout est là. Et l'homme, il imite Noéa. Il prend son mouvement, minachoresh, de la racine. Il y a une cause principielle et qui anime sa vie. Son corps n'est qu'une enveloppe. Une enveloppe de l'âme pour le distinguer par rapport à d'autres. Mais au fait, il n'a aucune particularité. C'est ce que dit le Nachash. Vous allez être des objets. Par contre, si vous connaissez l'autre côté, en fait, ce n'est pas l'autre côté. Vous allez vous connaître vous-même, Vihitem Kelohim, qu'est-ce qu'il lui dit? Vous allez être des dieux, ou comme des dieux, exactement. Vihitem Kelohim, vous serez comme des dieux. Avec un pouvoir, avec une liberté, avec un choix, avec cette possibilité donc de refuser, de prendre. Donc apparemment, selon le Nachash, selon la ruse, on n'existe pas sans le mal. c'est le mal qui nous donne cette réalité. Donc, notre existence, puisque l'existence avec l'éternel, avec le Tzraïm, c'est une soumission totale, tu n'existes pas en vérité. Tu n'es qu'une pièce d'un grand moteur, d'une grande machine. Le Nahash, lui, est super intelligent, puisqu'il veut séparer. Le Nahash, c'est encore une fois, c'est l'esprit que Dieu nous a donné. C'est l'esprit de la nature. La nature a un esprit. Cet esprit s'appelle le Nahash. C'est le roi du Sadé, le roi des champs, de tous les champs. C'est le roi de tous ces terrains, le roi de toute cette planète. C'est le Nahash. C'est la science aussi. Mais ce Nahash, comme la science, veut nous montrer comment ça fonctionne sans Dieu. Et que tu peux influencer en bien ou en mal. Ceci dit que pour le Nahash, être, pour être, il faut faire, il faut réaliser, il faut construire. S'il n'y a pas de pluie, eh bien il faut construire la pluie, il faut amener la pluie. S'il n'y a pas d'eau, eh bien il faut créer l'eau. Vitem Kelohim, vous serez comme des dieux. À savoir, vous n'allez pas vous soumettre au système de Etz HaChaim, de l'éternité, de garder un état tel qu'il est, et le même état se reproduit à l'infini. Mais vous allez changer l'état. Et si l'état change, dans ce cas-là, vous pouvez l'arranger comme vous voulez. Le Nahash, lui, va amener cette notion qu'on appelle le temps, le changement, et donc le temps, la liberté. Mais aussi, nous allons maintenant vivre la relativité. C'est relatif. Ça veut dire qu'en fait, on comprend une chose par rapport à l'autre. Ce n'est pas le Nahash. Il n'y a pas d'autre. Le tout est un. Donc en vérité, le Nahash, lui, va engendrer la brisure de l'unité. Pour un peu diluer le sujet, le Nahash, lui, le serpent, sa tête n'est pas fixe à une place. Il ne peut pas connaître ce qu'on appelle Derech Yashar. Et pourtant, Dieu dit, Vaelokim asa et Adam Yashar. Et Dieu a créé l'homme droit. Vehema ratsu cheshbonot rabim. Et l'homme qui devient pluriel maintenant, l'homme qui est au pluriel, donc ce n'est pas l'homme un, c'est les hommes vont rechercher les mauvais calculs. Ils vont faire des faux calculs. Cheshbonot rabim. Comme je disais, le Nahash, lui, il va faire la calomnie. Tu as vu qu'est-ce qu'il a fait l'autre? Parce que lui, il dénue, il déshabille. Il déshabille. Le Nahash, lui, va voir ce qui est caché. Ce que personne n'a vu, lui va le dire. C'est le calomniateur. Il va rapporter. C'est le rapporteur. Il va diffuser quelque chose que personne n'a vu. Mais au fait, vous allez dire, c'est grâce à ça que nous allons découvrir la vérité. Mais non, ça c'est la brisure. Je vais essayer d'expliquer maintenant. Après avoir donné donc les différentes significations de la fonction du mal, nous allons essayer de comprendre le mal qui engendre la brisure de l'unité. Puisqu'en fait, il y a un état de l'unité avant le serpent. Ou plutôt, avant la réalisation du projet du serpent. Puisqu'en fait, le serpent peut être là, comme le mal, il peut être ici, et intégré dans l'unité. Mais à partir du moment qu'il prend le pouvoir, alors dans ce cas-là, il brise l'unité. Parce que comme je disais tout à l'heure, la Gemara dit « Tamid hachamim eromim bedaat ». Le sage aussi est expert dans la ruse. Donc le sage utilise le mal. Mais c'est un mal qui est soumis, qui est intégré. Mais s'il prend le pouvoir, alors il brise. Dieu dit à Moïse « Prends le serpent, rends-le droit ». Donc il y a une transformation du serpent en cette canne, une canne droite, pour rectifier, ou pour, parce que Paro c'est le Nahash, comme disent nos maîtres, comme dit le prophète aussi, Tahatanin Agadol, le grand serpent, c'est Paro, celui qui déshabille tout le monde, celui qui met à nu tout, celui qui ruse, le monde entier. Parce qu'il connaît toutes les faiblesses du monde. Mais au fait, le serpent, cette connaissance, Hema Hachamim Lehara. Le prophète aussi parle de cette, entre les guillemets, sagesse, mais ce n'est pas une sagesse, cette science de la ruse. Cette science de la ruse, c'est la science de la multiplicité, du multiple, et non pas de l'unité. Il y a deux sciences. Il y a une science, donc, de l'unité. C'est la voie, la première voie d'Adam Rishon, c'est le Yetzer Chaim. Elokim Asa et Adam Yasha, c'est ce droit, cet homme droit. Et enfin, il y a cette situation, donc, du multiple. Pour comprendre une chose, il faut l'autre. Regardez la Lune. La Lune, elle veut gouverner, elle veut dominer. Les kabbalistes disent, le Zohar parle de Koach Itim, les 28 moments de la Lune. Mais ces moments de la Lune, c'est la dualité. Je vais vous dire, ces 28 moments, il s'agit donc d'un temps pour vivre, un temps pour mourir, un temps pour coudre, un temps pour déchirer, un temps pour pleurer, un temps pour rire. Mais est-ce qu'on peut rire sans pleurer? Est-ce qu'on peut pleurer sans rire? La Lune, comme apparemment le Kitroug, le Nahash, dit qu'au fait qu'il n'y a pas de rire sans pleurer. Ça ne peut pas exister. Il faut l'autre côté. Ce qu'on appelle la Sitra Achra, l'autre côté. Que dans la Kabbalah, on appelle l'autre côté le président du mal. Le président, c'est-à-dire en fait c'est le grand chef. C'est Manitou, le grand Manitou. Ça c'est pas enfin, parce que nazi, non. Donc, le mal, lui, veut être la preuve de Dieu. La preuve que Dieu existe, eh bien, est le contraire de Dieu. Le Ramchal aussi dit que le Ra, Hefech HaYichud, il appelle le contraire de l'unité. Mais en fait, ce n'est pas le contraire de l'unité, c'est la brisure même de l'unité. Maïmonide, dans le Guide des Égarés, nous dit... Quelle différence il y a entre Adam Arishon avant la faute et Adam Arishon après la faute? Donc avant la ruse et après la ruse. Avant la ruse, la notion de connaissance d'Adam Arishon ou d'appréhension d'Adam Arishon, c'était la vérité. Maintenant, c'est le bien et le mal. Il n'y a plus de vérité. La vérité n'existe plus. Après la faute d'Adam Arishon, il n'y a plus de vérité absolue. Il y a une vérité relative. Et donc, au fait... Nous avons une autre notion, donc, de discernement. Je fais ceci ou je fais cela, non pas parce que c'est vrai ou pas vrai, mais si c'est bon ou c'est pas bon. Donc il y a une morale qui va déterminer aussi une vérité. Mais qui peut décider si c'est réellement la vérité? Un jour, les juges, chez les nations aussi, disaient que l'avortement... c'était mauvais, que c'était interdit, donc interdit. Et une femme qui avorte, elle va en prison. Maintenant, c'est fini, il n'y a aucun juge qui pense là. Il y a seulement quelques années, c'était interdit partout. Il n'y a qu'au Québec et dans notre pays qu'il faut trois médecins qui signent l'importance de cet avortement. Sinon, dans tous les pays du monde, chaque médecin est juge. S'il décide que, ou la femme elle-même, elle juge si c'est bon pour elle ou c'est mauvais pour elle. Est-ce qu'il y a un juge de la vérité? D'après Maïmonide aussi, on ne peut plus parler réellement de vérité absolue. La Kabbalah, elle, parle d'une vérité absolue, puisqu'on parle de Chokhmat HaEmet, de la sagesse ou la science de la vérité. Mais Behemet, qui peut parler du Emet? Qui peut parler réellement de la vérité? Puisque la vérité, elle, elle englobe le tout. Donc le mal aussi. D'ailleurs, le mot « émet » en hébreu, c'est de « aleph » « atav », comme dit que c'est que le « parad itzrak » de « aleph » « atav », c'est-à-dire la première lettre, c'est « aleph » et « tav », c'est la dernière lettre, « roche »« tor » « sof », mais aussi le milieu, même c'est la médiane. « Roche » « tor » « sof », donc le « émet », c'est ce qui englobe le tout. Donc on ne peut pas connaître, il n'y a pas de partialité dans la vérité. C'est ou tout ou rien. Mais Adam Arishon, avant la faute, il voyait, donc il contemplait de la fin jusqu'à la fin, ou du début jusqu'à la fin. Donc il voit le tout en même temps. Maintenant, il ne peut pas voir le tout. L'une des raisons pour laquelle on prend trois juges, dans la Torah, on parle de trois juges. Un qui voit à droite, un c'est la gauche, c'est pas un gauchiste, mais il est à gauche. Et il n'y a pas d'avocat, vous savez, dans un tribunal, il n'y a pas d'avocat, le tribunal juste. Celui qui est à gauche, c'est l'avocat. Celui qui est à droite, ou le contraire, à droite, c'est l'avocat, il cherche le bien, il cherche de trouver l'aspect positif. Et celui à gauche, c'est le procureur, il dit, ça va pas. Et celui du milieu, bon, on va trouver une résultante. Mais attention, en sachant que cette résultante, c'est pas la vérité de la vérité. C'est la vérité relative. Mais est-ce que l'homme, peut vivre ou connaître cette vérité relative? Le cerveau de l'homme lui-même est composé d'un hémisphère droit et gauche. Donc il y a le sensible, il y a le cognitif. Et donc il est partagé. Mais pourtant, le Zohar parle d'une tête où il y a un seul cerveau, sans droite, sans gauche. Let yamin velet smol. C'est comme un cerveau de la fin des temps qui existe déjà et qui englobe et la droite et la gauche et le tout. Et donc, cette vision du tout. Pour le Nachash, parce que Nirgam Mafrid Alouf, lui, il veut diviser. Et donc, comprendre en divisant, et c'est les Grecs, il faut séparer pour comprendre. On ne peut pas comprendre sans séparer. D'ailleurs, comprendre, c'est discerner. Mais est-ce qu'il y a une compréhension sans discernement? Oui, puisque les Mekoubalim parlent de Chochma, apparemment de ce cerveau qui est unique. Et ils parlent d'une Bina par rapport à la Chochma, donc un discernement. Donc cette idée de briser pour comprendre, de séparer, de décortiquer, on va dire, de rendre multiple le 1, c'est ce qui permet donc de comprendre d'après le Nachash. Mais est-ce que c'est faux? Au fait, le Nachash, lui, il propose, encore une fois, le Nachash, c'est un esprit, non pas une voie droite, une seule voie, mais une voie où il y a le bien et le mal. Parce que la connaissance de la vérité elle-même ne peut pas être appréhendée par l'homme. Il ne peut pas la saisir. En d'autres termes, il ne peut pas trouver Dieu. Il ne pourra jamais connaître Dieu. Donc dans ce cas-là, toute sa vie, il est soumis. Il disparaît complètement. C'est vrai qu'il est éternel, mais qu'est-ce qu'il a gagné avec cette éternité? Par contre, s'il meurt, c'est qu'il était là, il a existé, et donc il meurt. Et cette existence est rattachée à la mort. Donc la mort, comme même s'il y a la mort, parce qu'Adam Aïchan sait qu'il va mourir, en empruntant cette voie de la brisure, donc du discernement, il sait qu'il va mourir. Mais c'est cette notion donc de discernement qui va le faire connaître. S'il n'y a pas l'exil, en parlant donc du peuple d'Israël, est-ce qu'il y a un peuple d'Israël sans l'exil? C'est l'exil qui va le faire connaître. Avraham Avinu dit Bame Eda, comment saurais-je que je vais hériter cette terre? Dieu promet à Avraham qu'il va hériter la terre d'Israël, sa descendance héritera la terre d'Israël. Et là Avraham de poser Bame Eda, donc il veut savoir. Dieu, qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit Yadoa Teda Kige Izalakha Beretan, il parle de l'exil. Ta génération sera exilée. Mais on peut dire Avraham n'a pas posé de la question sur l'exil, il a posé une question sur la terre d'Israël, sur l'héritage d'Israël. Mais la réponse, elle est de l'autre côté. Elle est dans les ténèbres. Elle n'est pas dans la lumière. Elle n'est pas en Eretz Israël. Il faut l'exil pour Eretz Israël. Est-ce qu'on peut parler de résurrection sans la détérioration? Comme dit le Maguid de Dovna, lorsqu'il parle d'explication du mal, le mal c'est pourri, c'est quelque chose qui est pourri. Oui, mais il faut que le grain soit pourri pour qu'il puisse germer. Donc, est-ce qu'il ne faut pas que le peuple d'Israël arrive à cette situation donc dégradation pour qu'il puisse ressusciter en un peuple, prendre conscience que nous sommes un seul peuple. Est-ce qu'il va passer par cette détérioration, par la mort, et qui va me faire aimer la vie? Sans la mort, est-ce que je peux aimer la vie? Il y a la vie, mais je ne peux pas l'aimer. Je peux l'aimer seulement si on peut me retirer la mort. C'est parce qu'on peut retirer quelque chose qu'on peut l'adorer, le rechercher, le désirer tout simplement. Donc cette notion de désir, ta'avahu la'enaim, un désir, il faut qu'il soit pas, il faut qu'il soit interdit, kivirol, pour qu'il soit désiré, donc convoité, le désir qui devient en hébreu comme ta'avahu la'enaim. Le peuple d'Israël, après, quand il est sorti d'Égypte, aussi on leur a donné un genre de nourriture qu'on appelle la manne, mais qui était toute blanche, comme du riz. Donc un grain blanc, et on mange que ça toute la journée, tous les jours, pendant 40 ans. Alors ils ont dit, bon, il y en a marre de ça, katsanav chez nous, où sont les pastèques, où sont les piments, où sont, etc., etc. Donc ils ont cherché, tout simplement, la multiplicité, les couleurs. Cette couleur blanche, jusqu'à quand? Mais elle contient tout, la blanche. Il faut la briser. Et là-bas, il est écrit, kivrot ata ava. Les tombeaux de l'envie, les tombeaux du désir. En fait, ils sont morts, ils se sont enterrés. Revenons à notre première question. Est-ce que l'homme peut appréhender la vérité avec cet autre élément qu'on appelle la beauté? C'est-à-dire ce que chez les Grecs, comme chez le Nahash, vont rechercher, l'esthétique. Est-ce que c'est possible? Ou bien non, c'est possible, le Nahash ne dit pas que c'est pas possible. En fait, il dit, Adam Arishon vi'item, qu'Elohim vous serez comme Dieu, à partir du choix, et donc de la compréhension profonde. Parce qu'il met en doute la possibilité de la compréhension en tant qu'adhésion, à savoir d'adhérer, de s'unir. En d'autres termes, tu peux comprendre, mais tu seras toujours bête. Tu seras toujours un chamor qui supporte. Comme dit d'ailleurs la Gemara parle de ce chamor, chamor nosé svarim, un bête, une encyclopédie, il porte beaucoup de livres. Mais c'est un âne. Ce n'est pas parce qu'il connaît des livres que c'est un homme, un sage. Non, un sage, ce n'est pas quelqu'un qui porte des livres. Donc, pour le Nahash, lui, on ne peut pas porter la Neshama, c'est-à-dire l'âme de Dieu, le don de Dieu, ce qu'il nous donne. Il faut le construire. Et pour cela, il faut casser, il faut briser, ça, c'est vrai, mais il faut le construire. Quand est-ce que commence cette notion de travail, de Bezeat Apecha Tochal Lechem, donc de construire le travail lui-même? C'est après la faute seulement. Avant la faute, Adam Arishon, c'est Néhémé. Il profite seulement, il se délecte. Mais il n'y a pas, c'est ça le paradis, hein? Il n'y a pas donc une place au travail. Mais s'il n'y a pas ce travail, cette recherche, est-ce qu'on est capable de vivre, encore une fois, ce plaisir, cette adhésion, donc cette beauté et ce plaisir? Ou bien il y a une vérité, c'est vrai, et l'absolu, mais elle est froide. Le Rambam explique dans les Klalim, concernant les âmes, quelle différence il y a entre l'âme avant de venir dans ce monde et après qu'elle soit venue dans le corps. Puisque ce qui va faire le changement, c'est le corps, okay? C'est cette nature. Et le serpent, lui, il est l'expert dans la nature. Mais il n'est pas expert dans l'âme. Le Rambam explique. C'est quoi cette différence? L'âme, encore une fois, l'âme avant de venir et après que ça vienne. Écoutez bien maintenant, parce que là, la clé. Avant la faute, l'âme, effectivement, dit le Rambam, était asservie à Dieu. C'est quoi asservie? Elle ne peut pas lever le front. Elle ne peut pas voir. Elle peut juste essayer d'imaginer qu'est-ce qu'il y a à côté d'elle, mais elle est soumise complètement à ce pouvoir. Un peu comme les anges aujourd'hui, sur lesquels est écrit cet esprit, sur lesquels est écrit Yotzer Mesharetim Vashem Mesharetav. Il crée des serviteurs. Donc les âmes, L'âme, on peut l'appeler comme une servante. C'est une servante. L'âme en tant que servante. Mais quand elle est déracinée de ce monde, l'âme n'est plus donc dans cette situation donc d'être asservie, puisqu'en fait, elle quitte, un peu comme Adam Arishan qui quitte le Gan Eden. Imaginez l'âme qui se trouve dans le monde des âmes, et maintenant, cette âme est extirpée de son monde pour venir dans le monde d'en bas, dans le corps. Le Rambam nous dit, si au début, elle est considérée comme une servante, elle ne peut pas s'unir, elle ne peut pas adhérer, elle peut juste recevoir. Un peu comme cette âne. Hein? Et d'ailleurs, les anges, on les appelle les bêtes sacrées, Chayot HaKodesh, pour le mouvement aussi, pour cette force, pour ce zèle, mais c'est aussi pour cette soumission. Quand cette âme, quand les âmes sont séparées de leur monde pour descendre dans le corps, alors elles peuvent atteindre cette notion d'amour dont on parlait tout à l'heure, cette notion de recherche, cette notion donc de compréhension. Puisqu'au fait, s'unir, c'est comprendre. En hébreu, Vaïda et Sadat, Vaïda Adam et Trava, et l'homme connaît sa femme. Mais c'est ce même Da'at qui permet donc la faute. Est-ce qu'on peut connaître sans le mal, sans cette mal en tant que, maintenant, en tant que séparation? J'explique. Le Rambam explique que cet effet, cette séparation de l'âme, de son monde, lui permet maintenant de tomber, okay, entre les guillemets de tomber, et de dire maintenant, Ayeka, où tu es? C'est l'homme qui pose la question à Dieu. Lama Adonai et Ta'amod Berachok. Pourquoi Dieu, tu te trouves loin? Pourquoi je ne te vois pas? C'est David Améler qui parle, c'est le roi David. Donc, avant c'était Dieu qui interpellait l'homme, maintenant c'est l'homme qui interpelle Dieu, parce qu'il s'est séparé. Maintenant, il est en dehors du Gan Eden, du paradis. Est-ce qu'il ne faut pas cette séparation donc pour atteindre cette recherche de où tu es? Donc, de se retrouver, de s'unir. Donc, cette idée d'union, cette idée d'amour, cette idée donc de s'unir ne peut se faire que par la séparation de l'âme dans le monde des âmes. Au fait, le malach, l'ange, lui, il ne peut pas dire « Dieu, je t'aime, je te cherche où tu es ». Alors que l'homme peut dire, Dieu, je t'aime, je te cherche. Mais il fallait ces ténèbres pour dire, je te cherche. Parce que chez l'ange, il n'y a pas eu un serhadat, il n'y a pas eu un moment de déviation. Il ne se sépare pas. La présence est en face de lui, continuellement. Donc, pour créer ce désir, cet ahava, ce désir, cette envie, mais aussi, dans un langage plus positif, cette union, il fallait donc le nachash, il fallait donc le serpent. Le serpent, c'est vrai que sa fonction à lui, comme disent nos maîtres, nirgam mafrid alouf, il sépare, c'est le séparateur. Lui, il fait la zizanie, il sépare, mais il t'oublie de séparer l'âme de Dieu, séparer l'homme de Dieu, mais séparer aussi dans la nature elle-même. Et c'est la distinction. Mais s'il y a une distinction pour une distinction, une science pour une science, alors c'est une catastrophe sans cette conscience. C'est une destruction, c'est la mort. Effectivement, il y a cette notion de séparation. Il faut se séparer. Adam Arishon se sépare de Dieu. Et pendant un moment, et c'est les 6 heures, il y a 6 heures, 6 heures de ce fameux vendredi de la naissance d'Adam Arishon jusqu'à vendredi soir, le moment de l'union avec Dieu. Mais c'est aussi, disent nos maîtres, Boshesh. Moshe Rabbeinu se sépare. La connaissance, Ken, ou cette présence de Dieu dans ce monde, se sépare du peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël sent qu'il est séparé, que Dieu n'est pas avec lui. Alors, mais c'est volontaire. Si maintenant il y a le Shabbat c'est justement c'est ce retour. Il faut la séparation. Il faut l'exil. Mais c'est rien que l'exil pour s'unir. S'il y a un, il converge vers cette union, vers le Shabbat, alors dans ce cas-là, il y a le tikkun. Puisqu'au fait, Dieu ne demandera pas à l'homme pourquoi tu es tombé. Il lui demandera pourquoi tu n'es pas revenu. Pourquoi tu n'es pas retourné à moi. Pourquoi tu ne t'unis pas à moi. Il va nous demander pourquoi tu... Parce que Adam Ram Ineorav, l'homme faute, l'homme se brise, l'homme chute, l'homme tombe. On peut dire que c'est presque normal. Mais par contre, la réprimande sera au niveau de la tchouva. La tchouva, c'est comme Shabbat, c'est ce retour, c'est cette union. Parce qu'il y a ceux qui ne désirent pas cette union réellement. Ils désirent rester dans leur place à eux pour prendre en fait, une position de Elohim, de maître suprême, de souverain. Alors qu'en fait, on est uniquement, notre existence ou notre réalité ne peut être une réalité seulement s'il est considéré comme cette Kala, comme cette fiancée, qui se fiance. Donc l'humanité entière, Adam Arishon en l'occurrence, lui au fait, doit être cette Kala de Dieu, à savoir de revenir à cette union. Parce que nos maîtres disent aussi, qu'est-ce que c'est l'Olam Haba? Qu'est-ce qu'on va faire? On ne travaille pas, on ne mange pas, on ne boit pas. Qu'est-ce qu'on fait alors? On contemple, on se nie. C'est ça le Yichud Ani Pradim El Hashoreh chez Laurent Bram, c'est une unification. Donc en vérité, il y a deux genres de compréhension, deux genres de sagesse. Il y a une sagesse, effectivement, en tant que science, qui désigne un discernement, une distinction, une séparation. Et c'est ça le Bereshit, Bara Elohim, Ima, Bara Elohim, Elohim en tant que Ima, en tant que mère. Parce que le bébé, le fœtus, était dans les entrailles de sa mère. Et pour être, il faut qu'il se sépare. Mais c'est ça le mal aussi, comme nous avons expliqué. Que le mal, c'est aussi cette idée de séparation. D'ailleurs, la Gemara dit à quel moment vient le mal chez l'homme. La petach hatadrobet, dès qu'il sort du ventre de sa mère. À savoir, tout le temps qu'il était uni à sa mère, il n'y a pas de mal. Mais dès qu'il sort du ventre de sa mère, alors commence le mal. La petach hatadrobet, il attend. Alors imaginez toute l'existence au sein de Dieu, au sein de l'infini. Cette existence, elle doit se séparer de lui pour être. C'est ça le tzimtzum. C'est ça la brisure, la shvira aussi. La brisure, la séparation, c'est là où commence le mal. C'est une séparation. La séparation est nécessaire pour être une réalité autonome. Mais il n'y a pas un but de rester autonome. Ceux qui veulent fonder toute leur philosophie sur la liberté, alors c'est la mort. À savoir, oui, oui pour la liberté, oui pour la séparation, oui pour la distinction. Mais après s'être identifié, il y a 6 heures, maintenant Dieu a été, il y a cette longanime, était très patient avec nous, il nous donne 6000 ans. Mais ce sont les 6 heures de ce Erev Shabbat qui auraient dû être que le 6 Sivan pour le peuple juif, le 6 Sivan, à savoir le don de la Torah, la révélation de la Torah. Mais pour l'ensemble de l'humanité, à la fin du 6e millénaire, encore 6, en fait ce sont les 6 principes. Chichat Tartonot, les 6 millénaires, les 6 jours aussi, avant d'atteindre le Shabbat, le retour. Donc, il y a le mal dans les 6. C'est vrai, le mal prédomine dans les 6. On dira, dans un langage plus positif, la séparation, l'autonomie, la liberté, elle se trouve dans ce monde de Bayaram qui boshesh Moshe. Mais là, est-ce qu'on veut se séparer totalement? Parce qu'attends un petit peu. Non. Est-ce que tu veux attendre? Ou est-ce que tu recherches l'union? Donc Dieu, l'unification, donc intégrer le mal, c'est ça intégrer le mal, c'est le tikkun du Ramchal, il ne faut pas séparer le mal, il faut l'intégrer. Et d'ailleurs, le Ramchal rapporte un midrash extraordinaire sur le Nahash, et je terminerai avec ça, Chaval al Oto Shamash, c'est dommage pour ce serviteur. Lorsque le Nahash a été acculé complètement, et rejeté, et maudit, alors qu'est-ce qu'on dira? Tant mieux pour ce Nahash. Eh bien non, pas du tout. Les maîtres disent c'est dommage pour ce Nahash. Comme si c'est un service extraordinaire qu'ils peuvent nous donner. On doit traduire la Torah. On doit traduire la Torah en grec. Et seulement en grec, disent les maîtres. Ils ont trouvé un éther dans la Gemara Megillah de ces la Septante, les Septante, les Septante, donc cette traduction de la Torah, de la Bible. Mais c'est la multiplicité, parce qu'ils sont dans la multiplicité, donc il faut arranger tout cela. Il y a le mal qui prédomine, la forme, la beauté qui prédomine. La beauté, oui. L'autonomie, oui. La relativité, oui. La lune, oui. Avec ce temps pour coudre et ce temps pour... etc. C'est vrai. Mais dans le sens de ramener le tout à ce Yichud, au Shabbat. Il y avait un maître qu'on appelait Shammai. Quand il trouvait un beau fruit, il l'achetait. Ah, c'est une envie, ça. Non, il disait l'Ikhvot Shabbat. Mais s'il trouvait un meilleur, alors il consommait le précédent, celui qu'il a trouvé avant, et il gardait le meilleur pour Shabbat. Au fait, tous les jours pour Shabbat. Yom Echad Beshabbat. Il y a un premier jour, c'est vrai. La Gemara de Maseret Tamid, Yom Echad Beshabbat, quand elle parle de Yom Shin. Il y a le dimanche, le lundi. Mais on ne dit pas dimanche. On dit le premier, le second. Par rapport à quoi? Par rapport au Shabbat. Le troisième, quatrième. À savoir, d'ailleurs, dans la tefila, dans la prière, on dit, voici le premier jour du Shabbat. On dira en français, le premier jour de la semaine. Okay? Bon, au fait, le premier jour du Shabbat, ce n'est pas le premier jour de la semaine. Parce que dans la semaine, c'est indéterminé. Shabbat, c'est quelque chose de bien fini. Ce qui clôture. À savoir, de désigner un but à la création. La création, elle n'a pas été créée pour être individuelle. Pour être elle-même. Si elle veut être elle-même, elle doit subir la mort. À savoir, elle est pour elle-même, pour 6 heures. Ce qu'on appelle les 6 moments. Ou les 4 fois 6, 24, etc. Pour un certain temps, elle est toute seule. Elle est autonome. Elle est libre. Mais à la fin, ça débouche sur la disparition. Par contre, oui, pour le plaisir, ce qu'on appelle le oneg. Mais c'est un oneg déjà pour les hachamim qui est tout de suite lié au Shabbat. Oneg, Shabbat. S'il y a oneg, c'est un oneg du Shabbat. C'est-à-dire, en fait, c'est lié. Mais un homme peut faire Shabbat tous les jours. Et c'est Rabbi Shimon. Les élèves de Rabbi Shimon disent, nous sommes les jours de la semaine. Moi, c'est dimanche, toi, c'est lundi, lui, c'est mardi. Ainsi parlait Rabbi Lazar. Mais toi, Rabbi Shimon, tu es le Shabbat. À savoir, tu es toujours Shabbat. Chez toi, c'est continuellement Shabbat. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il n'y a pas de travail même les 6 jours de la semaine. Alors que chez les autres, non, il faut travailler pendant 6 jours. Donc il faut œuvrer pour les 6 jours. Mais Rabbi Shimon vit le Shabbat chaque jour. Donc il faut vivre le Shabbat le dimanche, le lundi, le mardi. À savoir, c'est unification. Si à l'envie pour l'envie, c'est ce qu'on appelle Mosher Beor la Toraya. Adam Arishon, sa faute, c'est tirer ce prépuce. C'est quoi tirer ce prépuce? C'est une envie pour lui, non pas dirigée vers l'autre. C'est-à-dire, quand c'est pour lui, et uniquement pour lui, une créature pour lui, être, c'est l'égocentrisme, c'est Épicure. C'est les Grecs, en gros. Mais si c'est pour l'autre, alors dans ce cas-là, c'est plus un honnête qui est interdit, c'est un honnête qui est permis. C'est un oneg qui est une mitzvah. C'est un plaisir. Et qui est une mitzvah. Mais par contre, le même oneg, ce même plaisir, quand il est pour lui, donc c'est une envie, c'est un néga. Ce n'est pas un plaisir, c'est une envie. Et c'est un oneg, comme dit dans le Sefer Yetzirah, devient néga tzaraat, c'est la plaie. La plaie, c'est justement cette forme qu'on a voulu donner une importance. Elle devient lépreuse. Cette peau, cette beauté, elle devient une lèpre. Alors pour transformer la lèpre en plaisir, en beauté, alors il faut la diriger vers le Yichud, vers l'unification. Et c'est là, on va dire, la fonction du mal. La fonction du mal, c'est pour nous donner une prise de conscience de notre être. Mais il faut tout de suite, après avoir pris cette conscience, ce qu'on appelle Mohin de Gadou, dès que tu as grandi, dès que tu as pris conscience, maintenant il faut te tourner vers lui, c'est-à-dire vers cette unification, pour que le plaisir ne soit pas une tombe. Qui brote à ta main, pour que le plaisir soit une éternité. Baruch Hashem Olam. Amen. Amen.